VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
À Bujumbura, il est 14h. Bienvenue au Burundi. Fonctionnaires des administrations et entreprises publiques et salariés de quelques grandes sociétés privées ont défilé aujourd'hui à Bujumbura, selon l'AFP, à l'occasion du 1er mai, une cérémonie délocalisée et boycottée par les syndicats en raison des protestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le défilé est traditionnellement organisé dans le centre de la capitale. C'est exceptionnellement déroulé sur le terrain de football de l'école technique secondaire ETS de Kamenge, à la périphérie nord-est de Bujumbura, dans une zone relativement isolée sur lequel des tentes blanc, vert, rouge, couleur nationale du Burundi, avaient été dressées. Des manifestations émaillées de heurts avec la police agitent depuis dimanche plusieurs quartiers périphériques de Bujumbura où les policiers bloquent les protestataires, les empêchant de converger vers le centre-ville pour s'y rassembler. L'accès au terrain où se tenait la manifestation aujourd'hui était réservée aux officiels, aux participants au défilé et à la presse. Les festivités ont été bien plus réduites que les autres années. D'un autre côté, et toujours au Burundi, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza s'était poursuivi hier et un militaire a été tué et un civil blessé par un officier des services de renseignement à Bujumbura. On revient avec Georges Léonard Sagno.
Des manifestants venus du quartier de Moussaga voulaient converger vers le centre-ville. Un officier des services de renseignement a ouvert le feu près d'une barricade, tuant un militaire et blessant un civil. Les protestataires avaient arrêté son véhicule car les agents du Service national de renseignement, rattachés à la présidence, sont très redoutés. Le véhicule a été incendié. Dans le quartier Runanira, 9 opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés dans de nouveaux affrontements avec la police. Par mesure de prudence, le gouvernement a fermé les résidences universitaires officiellement pour des problèmes de sécurité. Un émissaire américain et un envoyé onusien sont à Bujumbura, la capitale, pour tenter de trouver une solution.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a jugé aujourd'hui offensant d'être accusé d'avoir étouffé les accusations d'abus sexuels sur des enfants par des soldats en Centrafrique. Plusieurs ONG ont demandé aux Nations Unies de faire toute la lumière sur cette affaire d'abus sexuels en RCA, certains accusant l'ONU d'avoir voulu étouffer l'affaire après la suspension d'un de ses cadres humanitaires. Anders Kompas, un haut responsable du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme basé à Genève, avait transmis en juillet aux autorités françaises au mépris des procédures de l'organisation. Selon elle, un rapport intitulé « Abus sexuels sur des enfants par les forces armées internationales en réaction à l'inaction de l'ONU ». Il a été suspendu le 17 avril et fait depuis l'objet d'une enquête des Nations Unies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Niger, les habitants des îles du lac Tchad doivent s'exiler pour éviter de nouvelles attaques de Boko Haram. C'est ce que recommandent les autorités locales après l'assaut de la secte islamiste samedi dernier qui a fait au moins 74 morts, dont des civils, dans l'île nigérienne de Karamga. Le Niger possède plusieurs îles sur le lac Tchad, vaste étendue d'eau située entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, souvent la cible de raids meurtriers des islamistes nigériens. En ce jour de 1er mai au Niger, les travailleurs prient dans des lieux de culte au lieu de faire la fête pour marquer leur compassion aux familles des victimes de l'attaque de Boko Haram contre l'île de Karamga dans le lac Tchad qui a fait plus de 70 morts, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'ont décidé les syndicats du pays. Le traditionnel défilé du 1er mai, fête du travail, a également été annulé. Au Mali, les combattre la rébellion à dominante Touareg et l'armée mercredi à l'RS près de la frontière mauritanienne ont fait près de 20 morts et une vingtaine de blessés. C'est ce qu'annonce le ministère malien de la Défense. 9 morts, 6 blessés, 6 ennemis capturés côté armée et 10 morts et 16 blessés côté ennemi. Selon l'AFP, c'est le plus lourd bilan depuis près d'un an dans des affrontements entre les deux camps. Le gouvernement et la rébellion s'accusent mutuellement de saboter les laborieux efforts de paix internationaux. Toujours au Mali, des éléments de la plateforme pro-gouvernementale Gassia ont reçu un accueil triomphal hier à leur retour à Menaka, près de la frontière avec le Niger. Ils ont chassé les rebelles du MNLA de la ville lundi et les ont poursuivis en brousse. Le témoignage de Rabat Ndouane, un habitant de Menaka.
Oui, à Menaka, des Gacha, ils viennent de rentrer avec beaucoup de véhicules et beaucoup d'armes récupérées sur les combattants du MNLA. Il faut comprendre que quand les Gacha est rentré ici le lundi, il y a eu quelques échanges de coups entre eux et le MNLA. Le MNLA a pris la tangente, il est sorti de la ville. Et ils les ont poursuivis en brousse. Et c'est là qu'il y a eu la chasse aux hommes. Il paraîtrait qu'il y a eu des combats vers là-bas. En tout cas, la ville, on n'a pas senti ça. Mais en brousse, il y a eu des combats. Et témoins, les véhicules, plus de 40 et quelques véhicules, plus beaucoup d'armes, mais on n'a pas vu les détenus. Ils ont fait des otages, on n'a pas vu. Ils n'ont pas présenté ça à la population. Donc c'est ce qu'ils ont amené pour faire la fête avec la population. Tout Menaka est là.
Rabat Ndouane, un habitant de Menaka dans le nord-est du Mali. En Mauritanie, imposante manifestation cette semaine à Nouakchott en réponse à l'appel des initiateurs du manifeste pour les droits politiques et socio-économiques des descendants d'esclaves appelés à Ratine. Parmi les revendications contenues dans le document, une discrimination positive en faveur de la composante noire des morts. Le point avec notre correspondant sur place en Mauritanie, Brahim Dia.
Le manifeste propose, je cite, de revoir les règles de partage du pouvoir pour attribuer un quota stable de 40% minimum à la communauté haratine au niveau des institutions constitutionnelles, du gouvernement, des administrations et établissements publics et des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Fin de citation. Ce quota de 40% est-il juste? Mohamed Valoul Hendeye est coordinateur du manifeste.
Si on applique l'arithmétique pure et dure, les haratines représentent 57% de la population mauritanienne.
Ce chiffre de 57% est une estimation. En Mauritanie, aucune statistique officielle ne révèle le poids démographique des haratines ou des autres composantes. Parmi les marcheurs, des militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, ils ont donné de la voix pour demander la libération de leur président, Biramoul Daoul Abeid, et de ses deux co-détenus, Djibi Sow et Brahim Oul Bilal. Le président de IRA et ses co-détenus purgent une peine de 2 ans de prison pour acte de rébellion non armée. Ils ont été arrêtés pendant une caravane contre l'esclavage foncier. Hamadi Oulehbous, militant de IRA Mauritanie.
Notre présence ici entre exactement dans le cadre de la mobilisation générale qui a été enclenchée depuis le 11 novembre. Le refus des haratines de toute la manipulation que l'État fait depuis le 11 novembre, l'arrestation des militants des droits de l'homme.
Les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont fortement pris part à cette marche. Idou Moul Mohamed Lemine est du Rassemblement pour la démocratie et l'unité, RDU.
Je suis ici parce que je suis favorable à l'égalité absolue entre toutes les composantes du peuple mauritanien et je suis favorable à ce qu'une solution soit trouvée au problème des inégalités, quelles qu'elles soient.
Les initiateurs du manifeste ont voulu organiser une marche nationale dépassant les clivages politiques. C'est raté. Aucune formation politique de la majorité soutien du président de la République Mohamed Oul Abdelaziz n'a pris part à cette marche. Le gouvernement mauritanien a pourtant adopté en conseil des ministres au début de ce mois un projet de loi durcissant les sanctions à l'encontre des auteurs de pratiques esclavagistes. Ce texte passera très prochainement à l'Assemblée nationale. Ibrahim Dia, à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Le 1er mai, fête du travail à travers le monde, a été l'occasion de nombreux défilés sur la planète, en Indonésie et aux Philippines, où nombre d'employés gagnent moins de 2 dollars par jour. Des milliers de personnes ont manifesté en faveur d'augmentation de salaire et de la fin des contrats temporaires qui les privent des moindres avantages sociaux. Et ici aux États-Unis, la police de Baltimore a remis les conclusions de son enquête interne sur la mort de Freddie Gray, un jeune noir décédé en détention des suites de blessures aux vertèbres cervicales, à la procureure chargée du dossier. Il reviendra à Marilyn Mosby de décider d'une éventuelle mise en cause de 6 policiers. 6 policiers ont été suspendus dans cette affaire et la justice fédérale a ouvert une enquête pour déterminer si les faits impliquent d'éventuelles violations des droits civiques.
VOA Afrique en direct de Washington.
Voilà, on termine avec l'agence Reuters qui annonce que les avions de la coalition sunnite au Yémen, menée par l'Arabie Saoudite, ont bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi un quartier résidentiel de la capitale Sanaa, faisant 1 dizaine de morts parmi la population civile. C'est ce que rapportent des habitants. Jean-Roger Billon à ce microphone. Merci de nous avoir suivis. Prochaines infos, c'est dans 55 minutes sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.